车。Bonjour, installez-vous. Il y a une place là aussi. Hein. Bon, c'est peut-être un peu près de moi. Bon, si ça vous embête pas, mais sinon vous pouvez vous mettre là. Hein. Ça m'ennuie pas du tout. C'est un peu pour... ouais, vous aurez droit aux bonbons comme ça. Oui, voilà, vous avez vraiment tout à portée de main. Vous pouvez glisser une petite main sur le côté. Personne ne verra, vous mangez des bonbons.
Juste une petite chose. On essaye vraiment d'être raccord sur les horaires, d'autant plus que Justine a un cours derrière encore avec Ato. Donc il faut vraiment qu'on finisse à 4h. Et ce que je propose, c'est que les autres fois, on commence vraiment à 2h, vous le dites à ceux qui sont un petit peu en retard. Parce que sinon vous allez rester sur votre faim en fait. Donc l'idée c'est qu'on commence vraiment à 2h et on finit vraiment à 4h.
Très bien. Merci Aude. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va poursuivre notre deuxième volet sur la révélation. La fois dernière vous aviez posé des questions qui anticipaient un petit peu sur ce cours-là, mais ça n'a pas d'importance. Les choses vont se dire autrement et puis peut-être avec des indications que je n'ai pas données la fois dernière. Donc on est là sur ce volet-là, sur le témoignage de la révélation dans les Écritures. Alors Dieu se révèle dans l'histoire d'Israël, c'est ce que nous avons vu la fois dernière, et que précisément la révélation est portée par l'histoire d'Israël, elle est portée par un peuple et elle est portée par une notion théologique essentielle qui est la notion d'élection. Alors, qu'est-ce que cela signifie, cette notion d'élection ? Eh bien, cela signifie que si Dieu est l'initiateur de la création, elle... Ah, d'accord. Si Dieu est l'initiateur de la création, s'il est l'initiateur de son auto-manifestation, c'est-à-dire il va se manifester de lui-même, par lui-même et en lui-même, il est donc l'émetteur de la révélation, et vous avez tout de suite compris, s'il y a un émetteur, il faut qu'il y ait un récepteur. Et donc le peuple d'Israël, qui n'est pas... tout de suite le peuple d'Israël, quand on est avec Abraham, on ne parle même pas de peuple. Mais on voit bien qu'Abraham est déjà la figure qui va concentrer cette figure de foi. Alors quand on dit figure, ça vous pouvez peut-être le noter comme ça dans un coin de votre feuille, c'est que l'Ancien Testament et la notion du judaïsme ancien fonctionne avec l'idée de figure. Beaucoup avec l'idée de figure. Donc si l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament ne va pas relater uniquement le cheminement d'un peuple, bon, ça veut dire que ce peuple-là, lorsqu'il va témoigner, il va témoigner de quelque chose de bien plus essentiel qui le concerne lui en premier, qui est son salut. La manière dont le Seigneur est intervenu dans son histoire, tout au long de son histoire, pour le sauver d'Égypte, le sauver pendant qu'ils étaient en rentrant dans le désert, et puis vous voyez bien, c'est aussi le sauver d'eux-mêmes, puisque ce peuple-là, il est à la fois fidèle et infidèle. Et le seul qui maintient sa fidélité, c'est le Seigneur. Donc, on a là un peuple qui va témoigner de l'intervention de Dieu dans leur vie, mais que ce témoignage, il n'est pas uniquement le témoignage d'une expérience, il est le témoignage de quelque chose qui s'est produit historiquement. Et ça, c'est un point crucial. Comment on peut identifier historiquement les hommes qui ont écrit et qui ont témoigné dans l'Ancien Testament? Ils sont identifiables historiquement. Et donc, je pense bien sûr aux prophètes. On en avait parlé, il y avait quelqu'un, l'un d'entre vous avait posé cette question sur les prophètes. Les prophètes, ils sont connus du peuple, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des gens qui sont pris au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la révélation de Dieu. Ils sont connus du peuple, ils ont marqué l'histoire de leur contexte, parce qu'ils vivent chacun à un milieu, à un contexte historique particulier. Donc ils ont marqué le contexte dans lequel ils ont vécu, c'est-à-dire une histoire sociale, ils appartiennent à un groupe, une histoire politique, ils ont un roi, ce roi fait sûrement la bataille à d'autres rois, d'autres tribus, donc il y a un mouvement social, vous m'avez compris, hein, un contexte politique et un contexte culturel. Parce que le culte, il vient s'organiser dans cette histoire-là, avec la dimension sociale, politique, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a un ancrage qui est identifiable historiquement dans l'histoire du peuple d'Israël. Et donc on a vu la dernière fois que cette tradition, qui était une tradition orale au départ, parce qu'elle est portée par le témoignage d'hommes choisis, les prophètes, et que ce témoignage a été porté de génération en génération, mais qu'à un moment donné, ce témoignage a été écrit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu que le témoignage écrit était venu, non pas ponctuer une histoire, mais était venu en relecture de quelque chose qui leur était arrivé. L'écriture, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, n'est jamais une écriture immédiate. Il y a une maturation. Et la maturation, elle commence dans les consciences de ceux qui vont écrire. Ils relisent l'histoire, ils relisent leur événement. Cela mature. Et ensuite, un événement peut-être extérieur vient les pousser à écrire. On avait vu, peut-être c'est avec vous, que la rédaction du Nouveau Testament, il était poussé par les premiers témoins mouraient, on était en contexte de persécution romaine, la parousie attendue ne venait pas, il fallait mettre très vite par écrit, il y avait une urgence de mettre par écrit pour que cela demeure éternellement de génération en génération et que l'on puisse, nous, continuer à en parler. Mais bon, si on revient dans l'Ancien Testament, il y a donc une révélation qui est une révélation qui est prophétique. Donc vous voyez, quand je dis révélation prophétique, on voit bien que Dieu choisit des hommes, mais ça veut dire que ce sont des médiateurs. Alors, vous savez, vous avez déjà peut-être vous animé du caté, on voit les prophètes comme des messagers, mais ce sont aussi des médiateurs. Dieu a besoin de médiateurs. Et les prophètes entrent dans cette, j'ose pas dire le mot nécessité parce qu'ils n'entrent pas dans un registre théologique, mais il n'y a pas de nécessité en Dieu, il n'y a que de la volonté. Voilà, c'est pour ça que le terme nécessité, il n'est pas très bien adapté. Mais les mots nous piègent, hein, parfois. Donc, cette révélation, on avait vu également qu'il y avait les vrais et les faux prophètes. Les vrais prophètes étaient ceux qui pouvaient avoir des visions ou des auditions de la manifestation de Dieu à leur égard, mais que ces manifestations, elles étaient toujours accompagnées de paroles. Le Seigneur leur parlait. Et ça, c'est important. Alors que les faux prophètes, ils peuvent avoir des visions, des présages. Ils faisaient rarement, pour eux, ils étaient tellement pleinement dans la divination que leur interprétation, c'était l'interprétation de la divination. La parole ne venait pas comme une clé d'interprétation. Et donc, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, la parole de Dieu est la clé d'interprétation. Et donc, il y a ce texte-là, dans Deutéronome 9, chapitre 18, versets 9 à 13, c'est un passage où il est question précisément des faux et des vrais porteurs de la parole du Seigneur. Voilà ce qui est dit. Donc le Deutéronome, on l'associe à Moïse, et voilà, qui dit « Quand tu seras arrivé dans le pays que ton Seigneur, ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divinisation, ou consulter les morts. Car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. » Et si on continue un petit peu plus loin au verset 18-19, « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. » Donc vous voyez bien, du milieu de leurs frères. « Un parmi le groupe. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dirai tout ce que je leur ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai des comptes. » Donc, vous voyez bien, c'est comme un pacte. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un pacte. Et en plus, le Seigneur dit à l'avance comment il va se manifester. Et il va donner lui-même des indications de cette manifestation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Lorsque Moïse est instauré seul médiateur du Seigneur, on peut lire dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 6, il dit « Écoutez donc mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parle. » Donc le Seigneur prévient déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète, on va dire, qui s'ignore ou qui soit pris par surprise. Donc chez les vrais prophètes, l'expérience même de la révélation, elle va se traduire par une manifestation sensible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur va se servir des sens que les hommes possèdent, l'ouïe, l'audition, la cosmologie, tremblement de terre, orage, des choses qui vont marquer, qui vont peut-être faire peur. En tout cas, le Seigneur va communiquer aux hommes par leur sens. Il va se servir de leur sens comme le canal de communication. Voir, entendre ou découvrir par des songes, en rêve, etc. Mais vous voyez bien que le songe, le rêve, l'audition, la vision, elle ne peut pas être considérée en tant que telle. En tant que telle, elle n'est rien. Ce n'est rien sans la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous disais que c'était la clé d'interprétation. Ça va?
Il y a des feuilles de lecture, je pense.
Ah, les feuilles de texte?
Oui.
Ah, ils sont peut-être dans le couloir. Ah, ou là-haut peut-être. j'ai aperçu des papiers sur... Oui, puis il y avait des choses à signer. Bon, ben voilà, c'est pas bien grave. Le principal, c'est de le savoir à un moment donné. Donc Dieu se révèle à son peuple. Il ne se révèle pas à un peuple, à n'importe quel peuple. C'est son peuple. C'est le peuple qu'il a choisi, qu'il a élu. Et ça, on doit bien, bien, toujours, toujours l'avoir en tête. Et que lorsqu'il se révèle à son peuple, il ne fait, même s'il se révèle d'abord à des prophètes, la révélation n'est pas confidentielle. Voyez ? C'est une révélation qui est historique, dans le sens où elle concerne tout un groupe dans l'histoire. Ça ne concerne pas un seul. Et s'il se révèle à un seul, c'est d'abord pour que ce un seul puisse transmettre le message à tous. Donc la révélation n'est pas une révélation confidentielle. Et là, on peut lire le texte 8. Je ne sais pas s'il est nommé 8 dans votre papier. C'est Exode 14, 30.
Ah oui,
c'est 4. C'est même 4, oui, parce que j'ai dû changer... J'ai changé les textes après. Je me suis dit que les mettre les uns à la suite des autres, ce ne serait pas commode pour vous. Donc du coup, j'ai remis le compteur à zéro. Donc là, c'est le 4 pour vous. Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur et il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Alors c'est intéressant parce que moi je vous ai parlé de médiateur, alors peut-être que je suis allée un petit peu vite, parce que c'est ça que j'ai en tête moi, l'idée que la religion chrétienne est une religion de médiation. Mais vous voyez les termes dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de médiation, il est question d'avoir des serviteurs. Et c'est ça qui est noté ici. Moïse, en Moïse, son serviteur. Mais Moïse est quand même un médiateur de la parole de Dieu. Donc, la foi naissante du peuple va conduire Moïse. Et puis, précédemment, on avait parlé d'Abraham, vous vous souvenez ? Comme étant la foi en le Seigneur, mais la foi dans l'histoire de tous les hommes. Oui, madame, vous aviez la main.
Pourquoi Dieu a choisi ce peuple-là particulièrement ? Pourquoi pas un autre ? Qu'est-ce qu'il ferait, au fond ?
Alors, moi, je ne peux pas vous dire. Ce que je vais vous répondre, c'est la réponse, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Mais on a vu avec Abraham, qu'Abraham, et c'est ça qu'on doit avoir en tête, que Dieu se révèle dans un milieu, ce que vous dites là, un peuple particulier dans un milieu géographique particulier. On est dans le monde oriental. C'est clair, on est dans un monde oriental. Et dans ce monde oriental, les peuples sont des peuples païens qui croient qu'il y a plusieurs divinités, qu'il y a plusieurs dieux. Et voilà que dans ce milieu-là, un homme, Abraham, a l'intuition qu'il n'y aurait qu'un seul Dieu, qu'il n'y aurait qu'un Dieu unique, à côté de plusieurs divinités. Alors, par extrapolation, je ne sais pas si c'est la réponse, mais on pourrait imaginer que Dieu a choisi précisément Abraham, cet homme qui avait l'intuition qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, qu'un Dieu unique, alors que son père vouait un culte à la lune et que lui-même était d'origine païenne, et Dieu s'est révélé à cet homme-là. Il a passé ça, il a mesuré sa capacité de croire qu'il y a qu'un seul Dieu, ben, au feu de la ligature d'Isaac en Genèse 22. Voilà, c'est-à-dire, comment va-t-il aller au bout de cette intuition-là, de cette foi-là ? Donc c'est pour ça qu'on dit Abraham, c'est notre père dans la foi, parce que sa foi elle est incompréhensible, sa foi, c'est-à-dire qu'il continue jusqu'au moment où il lève le couteau pour immoler le fils. Et là, c'est la main de l'ange qui arrête ce geste radical. Donc, sa foi, elle va fonder, finalement, notre foi qui s'inscrit... On ne s'est pas donné la foi, c'est dans dans une histoire, et elle s'inscrit historiquement dans cette histoire d'Abraham. Vous voyez ?
Vous dites qu'il a l'intuition Abraham, et que c'est, et vous avez bien dit la dernière fois que Dieu est toujours premier dans la révélation. Il est toujours...
Ben, c'est même pas qu'il est premier.
Ça, je veux dire, c'est lui qui prend l'initiative.
Oui, il est premier parce que la révélation, il est l'initiateur de la révélation. Et donc par rapport à
Abraham... Par rapport à Abraham qui est dans un monde polythéiste et qui ouais. d'un coup se dit, ben, il n'y a qu'un seul Dieu, comment ça... Enfin...
Alors, je ne dis pas qu'Abraham s'est dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, hein. Je dis bien, je ne fais qu'extrapoler par rapport à une question qui demeure quand même sans réponse. Après, il n'est pas interdit de regarder l'écriture et de dire ben, qu'est-ce que je peux trouver dans l'écriture comme indication possible pour pouvoir donner une explication. Ouais. Ça peut être ça. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Et d'autres vous diraient autrement. Un judiste peut-être dirait autrement. Ouais, il dirait autre chose. Donc tout ça, c'est comment on comprend. Comment on comprend les choses? Alors peut-être que le questionnement est peut-être plus important que la réponse, parce que la réponse que je vous donne n'est pas une, c'est une réponse peut-être parmi d'autres. Elle n'engage en rien, ni votre foi, ni la mienne, parce que c'est pas, comment dirais, c'est pas la réponse qui est importante, c'est ce qu'on fait de l'histoire du peuple hébreu et de l'histoire d'Israël aujourd'hui pour comprendre notre foi.
Mais quand on regarde un peu l'histoire des peuples justement orientaux autour, que ce soit les Perses, il y avait la religion zoroastrienne avec la Dieu, que ce soit les Égyptiens qui commençaient à avoir aussi un Dieu unique, on a l'impression quand même qu'il y a une convergence, ce qui n'enlève rien du tout à cet avènement de Dieu de l'Ancien Testament. Mais on ne peut pas dire que... Enfin, pour moi, dire que c'est tout d'un coup une révélation, c'est peut-être une révélation individuelle, mais ce n'est pas une révélation à un peuple, enfin, peut-être par dissémination individuelle de d'autres individus.
Alors, c'est le terme de révélation qu'il faut changer dans votre propos, parce que c'est pas la révélation du peuple, c'est comment il faudrait mettre intuition plus que révélation. Voilà. Et dans Zorobabel et Baal, on était quand même en milieu païen.
Et Baal commençait à être Dieu unique, enfin il a été pendant...
Oui,
ça c'est l'archéologie.
Oui, mais pour les Hébreux, le dieu Baal était un dieu païen.
Oui,
c'est ça. Dans
l'Égypte ancienne, quand on dit que Moïse est élevé par les Égyptiens, on sent bien qu'il est dans une culture égyptienne. Donc il y a quand même des correspondances entre le peuple égyptien, par exemple, et le peuple hébreu. Dans l'archéologie, on voit ça.
Oui, mais si on remonte à Abraham, on ne parle pas de
peuple. Oui, je sais bien.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une séparation entre Abraham et Moïse. C'est-à-dire que l'intervention avec Abraham, on est dans la révélation de Dieu sur une promesse. C'est ça, Dieu fait une promesse, le Seigneur, justement. Le Seigneur fait une promesse. Quitte ton pays, ta famille, va vers le pays que je te montrerai. Ça, c'est la promesse. Et comment, avec Moïse, cette promesse, elle continue d'être toujours présente, mais avec cette dimension de salut. Comment on sauve le peuple, comment le Seigneur sauve le peuple, d'abord de l'esclavage et puis de lui-même. 40 ans dans le désert, le veau d'or, les fidélités, les infidélités.
Pour me repérer un peu dans le temps, Abraham se situe à quelle année à peu près?
18 siècles à peu près, 18 siècles avant Jésus-Christ.
18. D'accord. Parce que c'est vrai que dans les pharaons, il y en avait un quand même, un Nathan qui croyait en un seul Dieu, qui avait eu une intuition aussi.
Oui. Mais après, c'est de quel Dieu on parle. C'est ça. Croire en un seul Dieu, de quel Dieu on parle. Et de le Dieu que les Égyptiens croyaient sûrement en un seul Dieu, Mais
non, c'est le premier.
C'est le premier. Mais il ne s'agit pas d'un Dieu qui se révèle à eux comme il s'est révélé au peuple hébreu, comme il s'est révélé à Abraham, et ensuite le peuple hébreu.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écrit après historique là-dessus, mais c'est vrai qu'il sortait vraiment de son... Il était dans son histoire, mais il sortait vraiment du lot parce que tous les Égyptiens étaient polythéistes et que lui, il a eu quand même l'intuition qu'il y avait un seul Dieu.
Mais vous parlez de qui là ?
D'Akhenaton.
Oui.
Le pharaon.
D'Akhenaton.
Oui, mais encore une fois, de quel Dieu s'agit-il ?
Je ne sais pas, il y avait une intuition.
Est-ce que c'est un Dieu qui va le sauver ? Est-ce que c'est un Dieu qui s'est adressé à lui directement ? Est-ce que... C'est ça, c'est un vrai qu'on sache. Là, on vraiment là, c'est hors de ma compétence. Mais ce sera intéressant de voir. Mais quel est ce Dieu dont il parle? Et ce Dieu, quelle est l'action de ce Dieu dans sa vie ou dans sa dynastie ou... C'est ça, en fait, qu'il faudrait voir.
Ça, je me demande si Dieu ne prépare pas avant le terrain pour que les hommes soient capables de comprendre ce qu'il veut lui.
Travailler en amont.
C'est une supposition.
On peut dire ça. Voilà. En théologie, je peux me dire Dieu prépare le terrain. Mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu décide. C'est sa volonté. C'est sa liberté. Ce qu'il y a de mystérieux dans la révélation, ce n'est pas le fait qu'il se révèle à nous, c'est le fait que nous ne sachions pas pourquoi, enfin, non pas pourquoi, mais comment. C'est-à-dire le comment et le pourquoi, c'est-à-dire le comment de sa volonté. Ça, la volonté de Dieu demeurera toujours un mystère. On ne peut pas dire, on ne peut pas expliquer. On peut dire qu'il se révèle à l'homme pour le sauver, et il révèle en même temps à l'homme que l'homme est un être de perdition, enfin, qui peut être perdu, et donc il vient le sauver, et peut-être que l'homme comprend et réalise que s'il a besoin d'être sauvé, c'est qu'il est peut-être sur la voie... Hein, et le décalogue montre bien comment le décalogue vient organiser la vie. Hein. La création, c'est mettre de l'ordre dans le chaos. Le décalogue, c'est mettre des propositions éthiques dans quelque chose, dans un chaos, je n'ose pas dire moral, mais parce que c'est pas que ça, mais d'une loi qui n'est plus, une loi du talion qui n'a plus lieu d'être, une autre loi. Je ne sais pas si j'ai répondu à des questions. Mais bon. Donc voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais en même temps, vos questions, elles montrent bien notre difficulté, c'est-à-dire que on est toujours en équilibre avec un discours théologique, le discours théologique de la foi, et en équilibre avec la connaissance ou des éléments qui viendraient percuter, des éléments tout à fait recevables. Vos questions, elles sont tout à fait recevables, mais qui viennent percuter les questions de foi et le discours sur Dieu. Ma seule réponse à vos questions, c'est identifions d'abord quel est le Dieu dont parle Akhenaton. Est-ce que c'est le Dieu qui vient sauver l'humanité, ou est-ce que c'est le Dieu, son intuition, qui fait que pour lui, il n'y en avait qu'un. Et peut-être qu'il n'y en avait qu'un, peut-être que ce un-là, il l'a élu lui-même parmi d'autres. Ça, il faut avoir ça aussi en tête. S'il a élu un parmi d'autres, c'est pas le Dieu unique qui se révèle à lui. Et là, c'est complètement différent. On est embêté, hein, avec tout ça. Alors, j'ai essayé de continuer. Mais c'est bien, vos questions sont tout à fait justes. Enfin, tout ça pour dire que les paroles de Dieu vont donner du crédit à l'action de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu va agir en faveur de son peuple, eh bien l'action et la parole vont rendre crédible ce qui s'est passé pour le peuple. C'est-à-dire, parole et action doivent être liées pour que le peuple puisse identifier la présence de Dieu dans son histoire et qu'il puisse ensuite l'écrire. Parce que le peuple, Moïse, lorsqu'il écrit dans le Deutéronome, il ne fait pas que dire les paroles du Seigneur. Il va aussi écrire les actions répétées du Seigneur en faveur du peuple. Paroles et actions. Donc il y a une identification à la fois historique et une identification du témoignage par rapport à des faits historiquement identifiables, parce qu'il y a des rois, il y a des dates, donc on sait, et par rapport à des faits historiquement, également historiquement identifiables. Alors, sans revenir totalement à vos questions, il y a peut-être un élément que j'avais noté ici dans le déroulement du cours, c'était que la foi d'Abraham, elle se réalise dans une rencontre. Akhenaton a-t-il rencontré ce Dieu unique ? Là, il y a une rencontre. Abraham fait la rencontre de ce Seigneur qui s'adresse à lui, bon, via l'ange. Et puis, de la même façon, Moïse, la manifestation du Seigneur dans le buisson ardent, voilà, une manifestation tout à fait surnaturelle. Mais lorsque le Seigneur se manifeste, il se manifeste concrètement, à travers quelque chose, soit une cosmologie, enfin un tremblement de terre, là, du feu. Vous voyez, il se manifeste objectivement, concrètement. Ce n'est pas de l'ordre de l'invention ou de l'esprit de celui qui écrit. Donc il y a vraiment le témoignage d'une intervention directe dans l'histoire. Et donc la confiance, elle va se... Comment dire, elle va naître de cet événement-là. Parce qu'il y a, des paliers quand même. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Enfin, les hommes de l'Ancien Testament n'étaient pas idiots, oui.
Moi, j'ai trouvé que le dieu d'Akhenaton, c'est le dieu égyptien du soleil.
Oui.
Oui. Le dieu qui croyait, ça n'a rien à voir.
Voilà,
c'est ça. Le culte au dieu du soleil.
Ouais. C'était déjà le soleil chez les
Égyptiens. Oui, ouais. C'était un seul dieu, mais c'était le soleil.
C'est ça. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison.
Oui, ce que je trouve extrêmement fort dans ce que vous me dites, c'est que à un moment donné, pour que l'homme rentre dans l'expérience du divin, et là vraiment on est au cœur du sujet, c'est-à-dire à un moment donné, il y a vraiment une nécessité pour appréhender dans notre incarnation,
d'une certaine façon,
La relation et la vivre pleinement,
ouais,
avec le divin, les concepts, les spéculations, les, ouais, intuitions,
ouais,
pour fines et subtiles qu'elles soient, ouais, ne suffisent plus.
Ouais,
c'est-à-dire,
ouais,
on rentre vraiment là, d'une façon exemplaire et éblouissante, dans l'expérience de la relation. Et les deux se complètent vraiment, on a l'impression que c'est une danse,
oui,
entre l'intuition. Et puis cette expérience,
ouais,
et puis comme si le Seigneur se dévoilait petit à petit,
ouais, ouais, ouais.
C'est bouleversant.
Oui, enfin, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a une première chose, tout à l'heure je parlais de nécessité, et là du coup dans ce que vous dites c'est très intéressant, parce que la nécessité elle n'est jamais du côté de Dieu, elle est du côté de l'homme. Pour l'homme, il est nécessaire à l'homme qu'il connaisse Dieu, vous voyez ce que je veux dire ? Dieu, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de l'homme. Mais l'homme a besoin de Dieu. Donc la nécessité, quand je vous disais, il n'y a pas de nécessité en Dieu, il n'était pas nécessaire qu'il se révèle, mais il était nécessaire à l'homme qu'il connaisse Dieu.
Alors, je ne sais pas, je hasarde ça, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais s'il n'y a pas de nécessité de la part de Dieu, il me semble qu'il y a néanmoins un désir profond, aussi intense de part et d'autre.
Ah oui ?
C'est-à-dire que dans une relation, il y a vraiment une contemplation, un,
ouais,
émerveillement,
ouais,
et avec un espace, une espèce de distance interstitielle,
ouais, ouais,
qui permet, on n'est pas dans la fusion, on n'est pas dans,
non,
la confusion,
non plus.
On s'apprécie à une juste distance que seul permet l'émerveillement.
Ouais, ouais.
Je pense que le désir, c'est vrai que le désir, sur un plan étymologique, vient de désir, de l'évaluation, Ouais. C'est vraiment le chagrin d'être privé d'étoiles.
Ouais, ouais.
Donc le désir de l'homme, il est consubstantiel à sa naissance.
Ouais, ouais.
Et progressivement, cette merveilleuse, j'allais dire, expérience ouais. dont vous nous parlez, permet de réveiller en nous, j'allais dire, ce désir, le ouais, reporter, ouais. le renforcer. Ouais.
Mais on pourrait presque dire que le désir en Dieu est consubstantiel aussi à lui. Par la révélation, Absolument. Par l'incarnation, et je vous renvoie au chapitre 1 de Dei Verbum, il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler aux hommes. Mm-hmm. Voilà, donc il y a l'idée de plaisir, de désir en Dieu.
Absolument.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est comme référence,
pardon Dei Verbum, la constitution dogmatique Dei Verbum.
Ah,
on en a parlé la fois dernière. Voilà. Voilà, c'est le chapitre 1. Donc, oui, du désir en Dieu, pas de nécessité, mais du désir.
Désir, je pense.
Du désir. Ouais. Et ça, c'est une notion qu'on n'envisage pas chez Dieu, qu'il y ait du désir en lui. Mais c'est pourtant la réalité. C'est un désir inassouvi de Dieu pour l'homme. Il n'a de cesse que de vouloir nous sauver, et de sauver le peuple et de lui-même. Et continuellement, jusqu'à l'incarnation, jusqu'à... Voilà, il n'abandonne pas le Fils, mais le Fils se donne librement pour le salut, c'est-à-dire ça va jusque-là, ça va jusqu'à ce don radical.
Mais j'allais presque dire que, peut-être que d'une façon un peu anticipée, ce mystère du sacrifice d'Isaac par son papa, son père, préfigure dans l'Ancien Testament,
oui, c'est très
je dirais anticipe,
oui.
Ce sacrifice absolument inouï
oui.
du Père par rapport à son Fils 2000 ans plus tard.
Oui, oui, c'est tout à fait juste, et puis ça nous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est fait, il procède de figures, c'est-à-dire la figure prophétique, la figure du sacrifice, la figure du serviteur souffrant, donc on est vraiment dans l'idée de figure. Mais on va passer, avec le Nouveau Testament, on va passer à l'idée de figure, c'est-à-dire de croyance, on va passer de la croyance à la foi. Ça, c'est un passage radical. Alors, j'essaye de retrouver mes notes. Alors, la nature du projet de Dieu. Puisque du coup, on en arrive à cette idée de projet, puisque on a parlé de désir, bien là, nous devons parler que dans ce désir, il y a un projet. Ce n'est pas juste un désir qui serait déconnecté d'un projet pour l'homme. Et que cette parole adressée est déjà une promesse en acte. La promesse est dite, l'acte est posé avec le don de la terre. Donc une promesse dans l'Ancien Testament, c'est à la fois une parole et un acte. Alors en théologie, si on veut comprendre en théologie, on ramène tout à l'unité. Il y a une unité en tout en théologie. La mort et la résurrection du Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament, voilà. L'unité, c'est la clé d'interprétation. Donc on voit bien que cette notion de figure, elle s'inscrit vraiment dans l'histoire d'Israël, et qu'avec la révélation, on va découvrir ce que Dieu veut. Dieu veut sauver l'homme, sauver, enfin l'homme, avec un grand H, sauver l'humanité, sauver les hommes. Toujours, je vous oublie pas, hein, mesdames, hein, c'est juste que... voilà. Voilà. Pourquoi il veut sauver les hommes, sauver l'humanité? C'est parce qu'il est amour. Je veux dire, on oublie que l'amour en Dieu, c'est le dénominateur commun, c'est le moteur, c'est le ciment. Et donc, il va révéler son identité, parce que Dieu ne révèle pas autre chose que ce qu'il est. Je suis qui je suis, Exode 3,14, il dit qui il est. Donc il y a du dévoilement et en même temps du voilement, puisqu'il n'y a pas d'autre, il ne nous livre pas autre chose que cette phrase, que ces quelques mots tout à fait énigmatique. Mais quoi qu'il en soit de ces figures prophétiques, on peut quand même voir que l'homme de l'Ancien Testament, il va témoigner d'une relation directe ou indirecte, mais d'une relation avec ce Dieu unique. Et ça fait toute la différence. Il entre en relation. Et dans cette relation, Dieu agit pour lui. Et ça, pour le peuple, c'est une expérience fondamentale, radicale. Alors nous, rétrospectivement, on voit bien qu'il y a une préfiguration, enfin je pense que c'est, vous en parliez, il y a une préfiguration dans l'Ancien Testament, préfiguration du Nouveau, c'est-à-dire qu'il y a par anticipation la possibilité de comprendre et d'interpréter la révélation de Dieu qui se poursuit, enfin qui se poursuit en fait, elle, qui se déroule dans son économie, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'incarnation du Fils. Voilà, on n'est pas dans deux moments différents chronologiquement de la révélation. Enfin, alors, je redis les choses autrement. On n'est pas chronologiquement, parce que nous, on voit les choses de manière chronologique. On a dit, il y a l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Mais on voit bien que la révélation, l'économie de la révélation de Dieu, elle est... Nous, humains, on la voit de manière chronologique, mais on ne doit pas la penser théologiquement de manière chronologique, mais comme une économie. Comment Dieu va mettre en œuvre son économie de salut? Donc on ne pense plus à la dimension chronologique, mais on voit la succession des faits dans l'histoire. J'ai commencé par vous parler d'une histoire, enfin d'événements identifiable historiquement. Ben en fait, il faut qu'on se rapporte à ça. Comment c'est identifiable historiquement? Qu'on ne se mette pas telle année. Voyez.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une interpénétration entre l'histoire et la méta-histoire, en fait.
Oui.
Comme une broderie où tout s'interpénètre dans une logique qui nous dépasse le plus souvent.
Oui, et pas parce qu'au final, le tissu est fait d'un fil de trame et d'un fil de chaîne et d'un fil de trame. Et que l'histoire, l'histoire de la révélation tisse l'histoire des hommes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'Ancien du Nouveau Testament. Ce serait une aberration. Vous avez l'habitude d'entendre que l'Ancien Testament annonce que le Nouveau Testament vient accomplir. Enfin, ou ce qui est accompli dans le Nouveau Testament. Donc il n'y a pas de... C'est en cela où la chronologie est difficile à tenir.
Jésus va le dire à Emmaüs. Il expliqua dans l'Écriture ce qui le concernait.
Oui,
oui,
c'est vrai.
À ces Écritures qu'il connaît.
Oui, c'est ça.
Pour aller à lui.
Oui, oui. Oui, parce que c'est le commencement et l'aboutissement. C'est ça qu'il y a de particulier dans l'incarnation du Fils, c'est qu'avec l'incarnation, on a à la fois le commencement et l'aboutissement. Et c'est-à-dire que l'aboutissement à la croix et à la résurrection nous permet, donc cet aboutissement-là, hein, de la mission, nous permet de comprendre le commencement. Voyez, c'est par le Christ, mort et ressuscité, que l'on fait le retour dans l'histoire. Comme vous le disiez à Emmaüs, il leur expliqua tout, dans l'Écriture tout ce qui le concernait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a un commencement et il y a une fin, comme dans un temps chronologique, parce qu'il y a effectivement une clôture de la révélation avec le Christ, mais comprendre cela, c'est nous obliger à faire le chemin inverse. Jusqu'à l'origine, et de l'origine à revenir vers le Christ. Ça, c'est un des grands mystères de la révélation. Et que cette manière-là de se révéler dans l'humanité, se révéler aux hommes, est une manière qui nous fait, par rapport à la foi d'Abraham, par exemple, ou à la foi des prophètes, ou à notre foi aujourd'hui, comment on est censé toujours faire une relecture de notre histoire. Dieu se révèle à nous de la manière personnelle qui est propre à chacune et chacun. Mais en même temps, s'il s'agit de notre histoire, d'une même foi, de l'unité d'une foi. Mais comment on est capable, relisant notre histoire personnelle, de dire à tel moment, ben finalement, cette grâce ou cet événement qui s'est produit, c'est Dieu dans ma vie. Le peuple d'Israël n'a pas fait autre chose. Il n'a pas fait autre chose. Donc en fait, on ne comprend les événements qui se sont produits que si on fait ce retour. L'aboutissement, on l'a vécu, et bien on fait un retour jusqu'à l'origine, jusqu'au moment où ça s'est produit. Bon. Tout ça pour vous dire que la figure prophétique et la relation de Dieu qui se met en œuvre dans une relation, dans cette relation avec les prophètes, n'est pas accidentelle. Elle n'est pas le fait du hasard. Alors, ni celui-là, il y a un livre, je ne sais pas, c'est pas Mono, qui s'appelle un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Hein, voilà. Je me trompe peut-être d'auteur, mais bon. Ben, vous voyez, c'est pas le fait du hasard, c'est le fait de la volonté de Dieu. C'est lui qui initie cette révélation. Et qui va révéler des figures aussi dans le Nouveau Testament. Comment ?
Jacques Monod,
voilà, c'est ça. Le hasard et la nécessité, mais c'était d'un point de vue, je pense, scientifique. Alors, j'avais noté que, prenant conscience de ça, enfin pas forcément de ce que je viens de vous dire là, les derniers mots, mais de l'importance de l'histoire d'Israël, c'est que l'on prenions, mais ça je pense que je vous dis que des choses que vous savez déjà, prendre conscience de l'importance de l'Ancien Testament dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se cantonner au Nouveau Testament en pensant que le Nouveau Testament viendrait rendre caduque l'Ancien. Pas du tout. Vous vous souvenez, je vous avais dit, n'oublions pas que Jésus est juif et qu'il est mort juif et que ses disciples et ses apôtres sont juifs. Donc ils ont une connaissance et ils écrivent, et les écrivains sacrés, comme dit la constitution des Verbum, les écrivains sacrés, donc les écrivains inspirés, ont écrit, donc sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, mais ont écrit en référence à leur connaissance de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Et que le nouveau est imprégné, c'est le fil de trame et de chaîne dont je parlais tout à l'heure, imprégné de l'Ancien Testament.
C'est pour ça que les Juifs parlent de premières écritures et pas d'Ancien Testament.
Oui, alors ça, je pense que c'était Monseigneur Lustiger, qui était juif avant sa conversion, et qui parle par respect de premier et de deuxième testament. Puis ça a été repris après par des exégètes. Oui. Parce que c'est vrai, quand on dit ancien, on pourrait dire c'est ancien, donc c'est caduque. Il y en a un qui remplace l'autre. Alors que non, on n'est pas... Et si on veut vraiment comprendre le Nouveau Testament, on doit lire les petites notes, d'abord les notes de bas de page, et puis les renvois dans l'Ancien Testament. Alors il y a ce texte de la Constitution dogmatique, toujours dans Dei Verbum, là c'est le paragraphe 4. Donc là c'est peut-être le texte 5 chez vous, pour vous peut-être. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ Sauveur de tous et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduque, alors pourquoi du caduque ? Ben oui, parce que l'histoire, elle est passée, elle n'est plus présente, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. Peut-être qu'il manque un E, là. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu,